Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ravi de commencer la semaine avec vous et avec Culture Média. Au menu, 2 heures de médias et de culture au sens large. Tous les médias, toutes les formes de culture, en l'occurrence une série israélienne boycottée par le Premier ministre israélien en personne et un documentaire politique. Mais là, c'est en France. Vous pouvez nous suivre en vidéo sur le site europe1.fr et Cyril Lacarrière qui vient de revenir de vacances, bronzé, allé et déjà ça, en train de faire sûr. Des selfies. Notre info média, ce sera avec la députée Aurore Berger qui remet aujourd'hui au Premier ministre un rapport sur l'accès à la culture, notamment chez les jeunes. Et vous savez quoi ? Avant de rejoindre Édouard Philippe à l'Hôtel Matignon, elle sera avec nous en direct et en avant-première. Samuel Etienne, ensuite, présentateur de Questions pour un champion et de la matinale de France Info, c'est le canal 27, sera avec nous en direct. Vous savez pour quelle raison ? Parce qu'il vient d'avoir un bébé. Alors vous allez me dire, mais quel rapport ? Eh bien, c'est que grâce à cette naissance, il est en congé paternité et donc il n'a pas besoin d'être en direct à la radio, au même moment, à la télé plutôt, puisque c'est France Info, la télé, le canal 27. Enfin, les prodiges Camille et Julie Berthollet pour leur déjà 5e album. Ça s'appelle Nos 4 saisons, ça sort vendredi. Il y a du Vivaldi dans l'air, mais pas seulement. Hélène Manerino, évidemment, va faire leur portrait inattendu. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Oh tiens, elle est de retour de vacances, elle aussi. Céline Dacosta, bonjour.
Beaucoup moins bronzée que Cyril Lacarrière.
Vous étiez ensemble ?
Non.
Bonjour. Ceci explique cela.
Bonjour à tous.
Cyril, donc bonjour, bienvenue.
Bonjour Philippe, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Et comme chaque matin, la tradition n'a pas changé, on démarre notre émission avec le journal des médias. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui au programme ce matin ? Vous avez vu cette phrase, comme elle est magnifique ?
Elle est longue, elle est magnifique ce matin.
Ça c'est l'impro.
C'est impressionnant.
C'est ça le vocabulaire, c'est ça la faconde.
Ce matin, on parle de Google qui met un peu de water in his wine, wow. D'un stratège nommé Leonardo et de Top Chef frappé par un méchant virus.
Mais Cyril, la tradition également, c'est de débuter avec les audiences. Qu'est-ce que les Français ont regardé à la télévision ce week-end ?
Alors, on commence par hier soir. Dimanche soir, ils ont regardé La Une, le film Les Gardiens de la Galaxie. Un film suivi par près de 4 200 000 téléspectateurs. Ça représente 20% de part d'audience. Deuxième position pour un autre film. Sur France 2, L'étudiante et Monsieur Henri. Un peu plus de 3 millions de téléspectateurs. Et enfin, M6 en troisième position avec son magazine Zone Interdite présenté par Ophélie Meunier. Près de 2 800 000 téléspectateurs étaient devant leur écran. Et encore quand même pour hier, encore un bon score à noter pour les fameux documentaires. Soirée donc de France 5, 1 280 000
sur les
personnes ont regardé.
Mais j'ai regardé ça, j'étais scotché. Voilà. J'ai commencé, je vous dis je regarde ça une minute et je suis resté scotché sur les croissants et le scandale des faux croissants qui ne sont pas faits en boulangerie.
Eh bien écoutez, vous étiez beaucoup quand même, 1 280 000 personnes à regarder cette soirée sur les croissants. Sur France 5.
Voilà, et sans mauvais jeu de mots, vraiment, ces soirées le dimanche sur France 5 ont vraiment une audience croissante. Un mot également de ce qu'a marché vendredi et samedi, Cyril.
Vendredi, la première marche du podium avec TF1, les 12 coups de cœur, 3 188 000 téléspectateurs. Et les audiences de samedi soir, un gros carton pour France 3 avec sa série Meurtre dans le Jura avec Sandrine Quétier. Le programme a réuni 4 460 000 téléspectateurs, c'est 22,5% de part de marché, oui Philippe ?
Ouais, c'est beaucoup, et je voulais dire que Sandrine Quétier était notre invitée vendredi, on lui a porté chance.
Ouais, d'autant un bon score, un super bon score pour France 3, qui a battu The Voice sur TF1. Le divertissement a réuni 4 349 000 téléspectateurs. The Voice est deuxième en nombre de téléspectateurs, mais premier sur la part d'audience.
Voilà, Nikos, viens chez nous et tu vas voir, tu vas repasser devant. Cyril, place maintenant au journal des médias, journal qui débute avec Google, qui serait en train de changer de philosophie concernant son rapport aux éditeurs financiers, c'est ça ?
Ouais, alors, on ne va pas s'emballer. Hein. Mais, selon l'AFP, l'agence France Presse, Google réfléchit à nouer des accords avec les éditeurs pour développer, je cite, « de l'information premium, une manière pour le géant américain d'apaiser ses relations avec les organes de presse, des relations qui se sont pas mal tendues depuis quelques mois. »
Alors, petit rappel des faits.
Je vous fais un résumé. Ça commence avec la Commission européenne qui vote en 2018 une directive qui oblige les plateformes à un meilleur partage de la valeur, comprendre, rémunérer les éditeurs. On se souvient qu'à l'époque, Google avait mené une intense campagne de lobbying pour tenter de faire achoper ce projet. La suite, ça se passe en France. Premier pays à transposer la directive dans le droit français qui oblige donc Google et les autres à passer à la caisse. Sauf que, ni Google ni les autres n'ont envie de payer. Et voilà le bras de fer qui s'engage. D'un côté, les plateformes étrangères qui tentent de contourner la loi et de l'autre, le pouvoir politique qui tente, lui, de vouloir faire appliquer cette loi. Pour tenter de forcer ses interlocuteurs, le ministre de la Culture a déposé une plainte auprès de l'autorité de la concurrence. Mais forcément, tout cela prend du temps. Alors, histoire de montrer qu'il est plein de bonne volonté, Google imagine aujourd'hui l'idée d'un accord de licence avec les éditeurs de presse dans le monde, évidemment, mais surtout pour le moment en France, puisque c'est là que ça commence. Reste à savoir quelle forme cela prendra, qui sera concerné et surtout avec quel argent mis sur la table. Ça va négocier sec.
Là aussi, on peut parler d'argent. C'est ce qui fait le plus d'audience à la télé. On parle football maintenant. Soirée Ligue des Champions demain avec une affiche importante pour les supporters du PSG. Le club de la capitale se déplace à Dortmund.
Ouais, les choses sérieuses commencent pour le PSG demain avec ce 8e de finale aller de Ligue des Champions. Si bien sûr, on sera très attentif à ce que feront les stars sur le terrain. C'est aussi un match très important pour un revenant. Le directeur sportif du club parisien, Leonardo, est en première ligne depuis son retour l'été dernier. Et il est dès ce soir l'objet d'une enquête de la chaîne L'Équipe, Leonardo le stratège. Pourquoi Leonardo est-il un stratège? Je vous propose d'écouter la réponse du co-réalisateur du documentaire, Sébastien Tarrago. Il est interrogé par Alexandre Omar.
C'est un stratège parce que je pense qu'il pense vraiment systématiquement au coup d'après. Parfois, j'aurais presque envie de dire que c'est un prestidigitateur parce que même quand je trouve qu'il peut avoir des sorties médiatiques un peu moins réussies, eh ben, il est tellement fort, tellement charmeur que globalement, tous les commentaires sont extrêmement positifs. C'est un stratège qui se rapproche du prestidigitateur.
Stratège ou prestidigitateur?
Vous avez dit un dit de trop.
Oh là là, c'est un enfer ce mot.
Prestidigitateur.
Voilà, merci Philippe Mandel. Pas sûr qu'au fond ce qualificatif soit une qualité. Écoutez d'ailleurs ce que dit Jalminha, un ancien international brésilien, au sujet de son compatriote. C'est un extrait du doc.
Léo, c'est un garçon bien éduqué, oui, mais c'est aussi un garçon qui a beaucoup de personnalité. Quand il jouait, il était capable de donner son opinion, de ne pas être d'accord avec les instructions, avec le système. Si certains étaient d'un avis, lui, il pouvait donner un avis contraire. S'il fallait jouer dur et aller au contact avec un coéquipier, il était aussi capable de le faire. Ce n'était pas un saint, un garçon passif devant les événements, il avait de la personnalité, et c'est aussi comme cela que tu réussis dans ce milieu.
Une personnalité que Leonardo s'est forgée tout au long de sa carrière. Sébastien Tarrago, le co-réalisateur du documentaire, nous relate une anecdote.
Pour comprendre Leonardo, il y a Romario, qui est lui aussi un très grand joueur de l'histoire du football brésilien, champion du monde. Il nous raconte comment Leonardo, qui vient d'une famille assez aisée, les aider en fait dans tout leur voyage. Il était très malin pour cela. Il était toujours là pour faciliter la vie de ses coéquipiers. Lui parlait déjà plusieurs langues. Ce n'était pas le cas de ses coéquipiers. Ils avaient parfois des difficultés à faire ce qu'ils voulaient lors de déplacements. Et lui, quelque part, il était là en soutien. C'est un grand charmeur qui peut être malin dans les bons côtés et dans les mauvais côtés en fait.
Si vous voulez un avant-goût de Dortmund PSG, c'est donc ce soir à 21h, le documentaire Leonardo le stratège sur la chaîne L'Équipe, le canal 21 de la TNT.
Cyril, avec l'affaire Griveaux et l'arrivée d'Agnès Buzyn, on l'a appris, pour le remplacer à Paris dans la campagne municipale. On parle évidemment beaucoup des municipales ces jours-ci. Et à un mois du premier tour du scrutin, les médias continuent de dévoiler leur dispositif. On avait déjà parlé jeudi dernier avec la presse régionale et ce matin, on s'intéresse à ce qui va se passer ici même sur Europe 1.
Europe a décidé de concentrer sa couverture des municipales autour de quatre grands thèmes: la sécurité, la laïcité, la France périphérique, l'environnement et la ruralité. Quatre thèmes qui feront l'objet de quatre délocalisations avec nos camarades du Grand Journal du Soir, Nathalie Lévy et Sébastien Krebs. Et comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, c'est Nathalie Lévy qui nous explique les raisons de ce dispositif. Elle est au micro de Louise Bernard.
On a eu envie de vous faire vivre ces municipales sur le terrain, au plus près des acteurs locaux, au plus près de la population, au plus près des associations, pour véritablement sentir les choses dans plusieurs régions de France. Quatre délocalisations, quatre émissions spéciales pendant lesquelles on va vous permettre d'entendre à la fois les attentes, les besoins, les solutions qui sont mises en place dans certaines villes, certaines régions, comment les acteurs prennent les choses en main, comment sur certaines thématiques ils sont plus ou moins présents ou en attente ou en demande. Voilà comment on va essayer de faire passer leur message, de montrer quelle est la réalité du terrain et être encore une fois au plus près à la fois des auditeurs et des acteurs.
Cette mobilisation, ça commence dès aujourd'hui avec le premier déplacement des équipes d'Europe 1, pas loin d'ici, en région parisienne. On écoute Nathalie Lévy nous détailler les enjeux de cette première délocalisation dont se chargera aujourd'hui Sébastien Krebs.
On y va pourquoi ? Parce que vous vous souvenez que dans la nuit du 2 au 3 novembre, il y a eu une nuit de violence importante. On s'est dit qu'il était de bon ton de parler de là-bas, de mixité, du vivre ensemble, de la laïcité, toutes ces thématiques qui sont très fortes sur place. Et on a pensé qu'il était judicieux les incarner depuis Chantelou-Lévin précisément.
En plus de ces grands journaux, Europe 1 a bien entendu prévu deux soirées électorales les 15 et 22 mars et plusieurs enquêtes autour des villes où les résultats seront très observés. La prochaine sera publiée ce jeudi avec un focus sur Bordeaux et la lourde succession d'Alain Juppé.
Top Chef, Cyril, ça reprend ce mercredi sur M6. Ce n'est pas du direct, l'émission est évidemment enregistrée et on sait déjà que la finale ne s'est pas déroulée comme prévu.
C'est une finale un peu vaseuse, en fait. C'est Le Parisien qui nous l'apprend. Le tournage du dernier épisode de cette 11e saison a dû être reporté pour cause de gastro-entérite.
Non.
Ouais. Le virus
a joué... tombe mal.
Ouais, ça tombe très mal. Le virus a joué un sale tour à un des finalistes du concours. Et c'est donc tout le dispositif exceptionnel de cette finale organisée dans les cuisines du Georges V à Paris qui a dû être annulé.
Ils ont dû être contents au Georges V.
Repos forcé pour les 110 personnes de la production, la vingtaine de serveurs mobilisés et les 100 bénévoles de la Croix-Rouge venus déguster le fameux repas des finalistes. Mais pas de panique, une bonne cure d'Imodium et de Smecta et ça repart. La production a réussi à remobiliser tout ce petit monde et hop, Top Chef s'est bien trouvé un vainqueur. L'ultime épisode a finalement été tourné lundi dernier, mais on ne sait pas si c'est le candidat malade qui l'a finalement emporté.
Bon, on essaiera d'en savoir plus demain parce que notre invité sera Stéphane Rothenberg, le présentateur de Top Chef. On va acheter de l'Imodium en attendant. Merci beaucoup, Cyril Lacrière. On serre la main de personne. Mais on se retrouve demain pour un nouveau journal des médias.
À suivre dans l'info média du jour, un rapport remis aujourd'hui à Matignon, un rapport sur l'émancipation par la culture, une promesse d'Emmanuel Macron qui tarde à se concrétiser. Et c'est notre invité, Aurore Berger, députée LREM des Yvelines, qui est chargée de cette mission. Elle vient nous en parler dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
Et c'est alors Philippe de l'Info Média du jour.
À la suite du grand débat national après la crise des Gilets jaunes, faut-il le rappeler, le Premier ministre a confié à la députée Aurore Berger une mission auprès du ministre de la Culture qui vise à, je cite, définir les objectifs, les principes d'action et les leviers d'une politique d'émancipation artistique et culturelle renouvelée, allant au-delà de l'éducation artistique et culturelle et qui s'adresse à tous nos concitoyens, je vais le traduire en français courant, donner un meilleur accès à la culture, à tous les territoires, à toutes les populations, notamment les banlieues et les campagnes, notamment les jeunes enfants. Bonjour Aurore Berger.
Bonjour.
Vous êtes députée des Yvelines, porte-parole LREM. À l'Assemblée nationale, vous êtes membre de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation. Et j'ajoute que vous êtes également très impliquée dans les médias. L'an passé, la saison passée, vous aviez été rapporteure de la mission d'information sur l'audiovisuel public. Mais d'abord, aujourd'hui, vous remettez au Premier ministre un rapport sur l'accès à la culture, notamment chez les jeunes. Tout d'abord, comment avez-vous procédé ?
Eh bien, l'idée, c'était de partir aussi d'une forme d'enquête de terrain, ce qui s'est traduit par 55 communes différentes dans lesquelles je me suis rendue pour rencontrer des acteurs extrêmement divers, à la fois les acteurs du monde culturel, évidemment, mais aussi les acteurs du monde socio-culturel, les fédérations d'éducation populaire, les élus locaux, de manière à confronter les points de vue, à voir ce qui fonctionne. Et ce qui fonctionne souvent très bien sur le territoire, mais qui n'est pas forcément suffisamment peut-être identifié au-delà des territoires. Et puis la manière avec laquelle le ministère de la Culture peut peut-être mieux accompagner aussi les dynamiques qui existent pour résoudre aussi parfois des inéquités qui peuvent persister. Je pense notamment à ce qui se passe sur l'éducation artistique et culturelle, c'est-à-dire comment on fait en sorte que tous les enfants dans ce pays aient accès à ce champ d'éducation qui est essentiel ensuite pour leur construction personnelle, individuelle, leur rapport au monde, leur rapport aux autres. Et là, on voit qu'il y a encore des inéquités très fortes.
Attendez, je vous interromps tout de suite. Les programmes scolaires ne sont pas les mêmes pour tous ?
Mais le problème, c'est que l'éducation artistique et culturelle, ce n'est pas aujourd'hui dans les programmes scolaires. Donc vous avez dans les programmes scolaires, par contre, ici, des cours qui vont être dispensés, d'art plastique, des cours de musique. Mais l'éducation artistique et culturelle, c'est différent. C'est la question du rapport aux œuvres, la question du rapport et du lien avec les artistes, la question de la pratique culturelle, c'est-à-dire comment je développe une pratique de spectateur, parce que c'est pas inné d'aller au théâtre, d'aller au cinéma, d'aller voir un spectacle vivant, d'aller dans un musée, comment je suis accompagnée, et puis surtout ça demande un temps long. C'est pas juste avec une intervention d'un artiste une fois dans l'année que vous avez de l'éducation artistique et culturelle. C'est des résidences d'artistes qui peuvent exister. Mais aujourd'hui, ça dépend beaucoup de la volonté, de l'énergie, des moyens que peuvent avoir les enseignants, les directeurs d'école, les élus locaux, parce que ce n'est pas encore sur du temps obligatoire.
Vous êtes allé voir ce qui marche et aussi ce qui ne marche pas ?
Alors, j'ai surtout vu ce qui marchait parce que je suis allée à la rencontre notamment des équipes artistiques sur les territoires. C'est pour ça aussi que je dis, dans le rapport que je remets aujourd'hui au Premier ministre, qu'il n'y a pas de zone blanche culturelle. J'aime pas ce terme qui a souvent été donné et qui est une vision, je pense, un peu trop parisienne.
Bah, pardon, il y a quand même peu de musées dans la Creuse. C'est pas faire injure à ce département.
Non, mais alors déjà, vous n'avez pas de zone blanche parce que vous avez des équipes artistiques partout sur les territoires. Partout, vous avez des compagnies de danse, de théâtre. Partout, vous avez de la musique. Partout, vous avez aussi du patrimoine. Aujourd'hui, 50% dans notre pays de notre patrimoine, il se trouve dans des villes qui font moins de 2000 habitants. Et le patrimoine, c'est la première, en général, entrée en matière avec, justement, le lien qui peut se créer avec l'art et avec la culture. Donc, partout, vous avez cette possibilité-là. Et donc, ce qu'il faut, c'est comment on met en contact aussi chacun avec ce patrimoine, avec ces équipes artistiques qui existent sur les territoires.
Alors, on va entrer dans le vif du sujet. Vous avez fait 60 propositions, à pas toutes les citer, évidemment. Je vais les faire dans l'ordre. Et certaines sont totalement iconoclastes, très surprenantes. Certaines sont très, très séduisantes. Proposition numéro 1. Pour rendre les parents acteurs de la santé culturelle, les parents, intégrer cette notion dans les carnets de santé, assortis de recommandations et de conseils en matière d'éveil culturel artistique. Je me dis, mais dans le carnet de santé, c'est-à-dire qu'il y aura la liste des vaccins et après la liste des musées qu'on va voir, j'ai rien compris.
Alors, la notion de santé culturelle, c'est Sophie Marinopoulos qui l'a développée, qui est psychologue, qui travaille notamment à Nantes, où elle a développé ce qu'elle appelle...
Alors, ça veut dire quoi?
Non, mais déjà, parce que je veux rendre hommage à celle qui a aussi imaginé le concept, tout simplement, c'est de dire qu'il se passe énormément de choses dans les 1000 premiers jours de la vie de l'enfant. Et quand dans vous, les 1000 premiers jours de votre vie, vous n'avez pas été mis en contact avec le son, avec la musique, avec le mouvement, avec le livre, eh bien, il y a quelque chose qui vous a manqué dans votre construction du tout jeune enfant. Et parler de santé culturelle, ce n'est pas l'idée d'avoir une surstimulation de l'enfant tout petit, mais c'est une logique d'éveil culturel, d'éveil artistique. Vous n'êtes pas le même quand, depuis le tout jeune âge, vous avez eu une relation avec votre enfant grâce au livre, par exemple.
Bien sûr.
Déjà, ça joue beaucoup sur la parentalité, mais ça joue aussi sur l'enfant et ensuite l'adulte que vous serez. Pareil si vous avez été mis en relation avec la musique. Et donc c'est de dire que aujourd'hui dans un carnet de santé, vous avez énormément de recommandations qui sont faites. Il n'y a pas que la liste des vaccins. Et parler de santé culturelle, c'est juste de dire qu'en fait c'est pas quelque chose d'accessoire, c'est pas quelque chose de supplémentaire, c'est quelque chose auquel chaque enfant dans notre pays devrait pouvoir avoir accès.
Proposition numéro 4, je saute, mais on est dans le même sujet. Vous recommandez de faire entrer le livre dans toutes les familles de France, avec toutes sortes de dispositif, notamment le dispositif première page. C'est une très louable intention, on est tous d'accord ici et moi le premier, mais comment on fait quand les parents sont analphabètes?
Ben, on le fait parce que justement vous avez déjà beaucoup d'associations qui travaillent sur la question de la lutte contre l'illettrisme, qui est un frein majeur d'accès à la citoyenneté, tout simplement quand vous ne savez pas pouvoir communiquer, pouvoir lire, pouvoir écrire, mais aussi parce que justement le dispositif première page il permet cet accompagnement-là puisqu'il permet justement l'accompagnement des parents et des enfants.
Or, oui, mais si les parents ne sont pas motivés, comment on fait? C'est ça la question.
Mais peut-être aussi parce que qui explique aussi aux parents l'importance de la relation avec le livre et dans sa relation que ça peut avoir ensuite avec l'enfant? Je suis désolée, c'est pas forcément inné. Moi, j'ai eu le bonheur et la chance d'avoir reçu ça en héritage.
Moi aussi.
Parce que mes parents sont comédiens, parce que j'étais baignée dans les livres depuis que je suis toute petite. C'est pas le cas de tous les enfants.
Sauf que, et moi aussi j'ai eu cette chance que mes parents étaient professeurs, mais il y a quand même quelque chose qui a péché dans l'histoire de l'école républicaine. Pourquoi l'ascenseur social ne fonctionne plus comme avant? Je vais donner un seul exemple. Les parents d'Albert Camus en Algérie, ils étaient analphabètes. La maman était femme de ménage, le père était ouvrier agricole, Camus était instruit à l'école publique et il est devenu le plus jeune prix Nobel de littérature à 44 ans. Pourquoi ce qui fonctionnait dans les années 50 ne fonctionne plus désormais?
Je pense qu'on ne peut pas avoir cette vision qui est trop peut-être caricaturale de l'école. C'est-à-dire qu'on demande énormément de choses à l'école. On demande énormément de choses aux enseignants. Et on ajoute énormément de missions. On leur demande aujourd'hui, par exemple, d'avoir des actions, ce qui est très louable sur les questions du développement durable, la question de l'éducation à l'alimentation. Mais moi, je pense qu'à un moment, c'est une alliance aussi qui doit exister autour de l'enfant. Et cette alliance, c'est d'abord la famille, c'est d'abord ce qui se passe dans l'intimité de votre famille, et c'est l'école. Mais c'est une communauté éducative qui existe autour de l'enfant. Mais il n'en reste pas moins que dans cette République où on se dit que finalement, on a malheureusement parfois de moins en moins de choses en commun, et c'est aussi ce qui crée parfois le risque de repli communautaire, ce qui a créé la crise des gilets jaunes. Si on n'a pas la culture en commun, alors on est en train de manquer quelque chose d'important dans notre pays.
Vous avez absolument raison. Lisez des livres. Restez avec nous sur Europe 1.
La députée Aurore Berger, notre invitée ce matin, c'est elle qui tout à l'heure va remettre au Premier ministre un rapport dont l'objectif est d'imaginer une politique culturelle diffusée largement dans le pays, les familles, les écoles et les espaces publics. On continue à en parler dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Après avoir sillonné les régions et interrogé des centaines d'acteurs culturels, la députée Aurore Berger rend aujourd'hui son rapport sur la culture au Premier ministre. Elle est notre invitée pour en parler ce matin dans Culture Média, Philippe.
On ne va pas détailler toutes les propositions, celle-ci m'a beaucoup séduit. 10, la proposition 10, pour encourager la présence de créateurs au sein des établissements scolaires, vous proposez de faire parrainer chaque lycée par un auteur, un écrivain, un essayiste, un illustrateur, et chaque collège par un artiste ou un architecte du département, organiser une rencontre annuelle avec le parrain ou la marraine. C'est une idée formidable, je trouve. Il y a combien d'établissements à parrainer? Est-ce qu'on a assez d'artistes en France?
Oui, alors c'est quelques milliers d'établissements, c'est pour ça qu'on ne l'a pas mis, par exemple, je ne l'ai pas mis sur l'école primaire maternelle, parce que là, en effet, il y avait un volume qui était beaucoup trop important. Mais je pense qu'on a besoin de créer cette relation entre les élèves et les artistes. Et le fait d'avoir un parrain, ça crée une relation très particulière, très approfondie. Et je pense que ça peut en effet changer la donne sur la relation qui peut naître.
Il y a un chapitre qui est intitulé « Associer et participer, le libre exercice de ses droits humains ». Et vous écrivez ceci: « Il faut reconnaître chaque citoyen, quelle que soit sa situation, comme un acteur à part entière de la vie artistique et culturelle. » Vous voulez dire que tout le monde, chaque citoyen, va devenir un artiste, que c'est pas un peu démago?
Mais déjà, chacun a une pratique culturelle. On a tous une pratique culturelle dans notre vie. On lit, on danse, on chante, on va au spectacle. On a tous une pratique culturelle. Mais je pense que finalement, il y a eu parfois une logique du ministère de la Culture, en tout cas qui a pu être prise comme étant assez descendante, voire certains disent condescendante, où on dit ce qu'il fallait faire aux différents publics. Et puis on catégorisait les gens. Et donc en fonction de là où ils étaient, de là où ils vivaient, de leur trajectoire, eh bien on disait, voilà, vous allez pouvoir voir ça, avoir accès à ça. Je pense qu'il faut changer de logique.
Ah bon ?
Il faut faire en sorte de faire participer, et que les gens soient eux-mêmes des acteurs de leur vie culturelle.
Vous soulevez un très très important problème. On pense évidemment, parce que vous dites jamais le mot, c'est pas prononcé comme tel, la campagne, les banlieues. Dans le rapport, ces choses-là sont dites en rubané. Mais il y a une question quand même qui se pose, c'est celle-ci. C'est, moi, je me souviens par exemple de la Maison de la Culture de Bobigny, qui a été construite justement sur les territoires qu'on appelle maintenant des territoires, dans les quartiers. Eh bien, tous les gens qui allaient là-bas se plaignaient de ne voir que des bourgeois qui allaient voir le théâtre, et que les jeunes de ce quartier-là n'allaient pas à la Maison de la Culture de Bobigny, qui avait justement été délocalisée pour donner l'accès à ces jeunes au théâtre. Comment faire, comment lutter contre ce hiatus?
Alors moi j'y suis allée, j'ai rencontré Hortense Archambault qui est la directrice de la MC 93. Déjà le lieu lui-même a été revu, son architecture a été revue pour que ce soit un lieu beaucoup plus ouvert, beaucoup plus transparent.
Donc pardonnez-moi, il n'était pas fermé le lieu.
Non, mais
N'importe qui voulait entrer entrer.
Alors, oui mais c'est pas si simple.
Expliquez.
Parce qu'il y a une forme d'intimidation qui résiste encore sur des équipements culturels. Le nombre de fois où on entend « c'est pas pour moi ». C'est pas pour moi d'aller à la bibliothèque, c'est pas pour moi d'aller au théâtre, c'est pas pour moi d'aller à l'opéra, dans une maison de la culture. Donc il y a encore une intimidation qui existe. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui les acteurs culturels pensent systématiquement le territoire sur lequel ils sont. La première mission qu'on donne à une maison de la culture, à un centre dramatique national, c'est d'abord la création. Il faut continuer à créer dans notre pays, à accueillir des équipes artistiques qui peuvent créer. Mais on ne crée pas sans diffuser, on ne crée pas sans lien avec tous les publics. Et aujourd'hui, de manière très claire, cette logique de lien avec les territoires, elle s'est beaucoup plus développée. Et la maison de la culture du 93, elle sort, elle va bien au-delà de ses murs, dans la relation qu'elle peut avoir justement avec les populations qui y vivent.
Je vais me faire l'avocat de ces jeunes qui disent « c'est pas pour moi, la culture c'est pas pour moi ». C'est pas que c'est pas pour moi qu'ils sont intimidés. Très souvent ils disent « c'est pas pour moi, pardon du mot, mais parce que c'est chiant, le soulier de satin Paul Claudel 7h, c'est pas pour eux, ils s'ennuient ».
Mais ça, je ne suis pas certaine. Pourquoi ils s'ennuieraient? Pourquoi il n'y aurait que certains publics?
C'est la discussion que j'ai eue. Eh ben, ils m'ont dit parce que c'est chiant.
Accéder à Claudel, je ne suis pas certaine. Bien au contraire, je pense que c'est beaucoup plus large que ça. La question, c'est l'accompagnement. Encore une fois, c'est sûr qu'affronter depuis le début une pièce qui dure 7 heures, comme aller au cinéma pour la première fois de sa vie, c'est intimidant si vous n'avez pas été accompagné. Et je pense que c'est là le rôle essentiel de l'école, c'est là le rôle essentiel des artistes, sur comment on accompagne tous les publics pour aller vers ces lieux, ils n'appartiennent pas à ceux qui en sont les directeurs. Ils n'appartiennent pas qu'aux acteurs culturels, ils appartiennent à tous les Français.
Ça, on est d'accord, la porte est ouverte et ils n'entrent pas, malheureusement. Proposition 38, je suis obligé d'aller très vite, Aurore Berger, intégrer l'éducation aux médias à la formation des enseignants. Alors, on est tous d'accord, mais moi, j'ai l'impression qu'on dit ça depuis 30 ans.
Mais je pense que là, on se retrouve dans une situation où on voit qu'il n'y a plus le choix. C'est-à-dire
non, mais je crois que c'était déjà fait, moi.
Ce n'est pas dans la formation. C'est-à-dire que l'enjeu, il est pourtant là. Il est avant de pouvoir transmettre, il faut aussi pouvoir être formé sur quels sont aujourd'hui les médias et surtout sur ce qui n'est pas un média. Et c'est souvent la difficulté difficulté à laquelle on se retrouve tous confrontés, journalistes, politiques. Mmh. C'est-à-dire qu'on a un volume tel aujourd'hui de contenu disponible qu'on n'arrive plus à distinguer ce qui est de l'information et ce qui n'est pas de l'information, qui est qualifié à dire que c'est une information et qui ne l'est pas. Et on a besoin de former les enseignants pour qu'ils puissent le transmettre.
Rapidement, proposition 41, faire de l'audiovisuel public le premier acteur de la démocratisation culturelle, renforcer l'offre et l'éducation de programmes culturels aux heures de grande écoute. Je trouve ça formidable, mais il y a déjà Arte avec de la culture 24 heures sur 24.
Il y a Arte, mais on a France Télévisions, on a Radio France.
Et bien tout ça, c'est formidable, ça existe. Mais ça seulement, existe. Les jeunes ne regardent pas Arte.
Alors, déjà,
le souci est là. Arte... Quand j'étais jeune, je vous racontais, on disait si seulement on passait la culture à 20h, vous verrez que ça intéresserait les jeunes. Une fois qu'on l'a mise à 20h et même toute la journée, et Arte, ça fait 0,7% d'audience
Arte, ça
et 1,5%.
Arte, ça a beaucoup progressé ces dernières années en termes d'audience.
Ça a rarement battu Jean-Pierre Foucault.
L'audience des réseaux sociaux d'Arte, elle est très intéressante à regarder. Elle est plutôt dans la trentaine, ce qui est intéressant quand même.
Je ne le critique pas, au contraire, je dis que ça existe déjà.
Mais ça veut dire qu'il faut aussi que la culture, elle soit sur les carrefours d'audience, là où les gens regardent la télévision. Il faut que ce soit sur France 2, il faut que ce soit sur France 3, il faut que ce soit accompagné, il faut que ce soit éditorialisé. La moitié du budget du ministère de la Culture, c'est l'audiovisuel public. L'audiovisuel public, c'est une force de frappe inouï pour permettre la démocratisation culturelle. Et il faut aussi penser l'audiovisuel public de cette manière-là.
Merci beaucoup, Aurore Berger. Je rappelle que vous remettez aujourd'hui au Premier ministre un rapport sur l'accès à la culture, notamment chez les jeunes. Merci pour cette avant-première en direct sur Europe 1.
Merci à vous.
Et il présente la matinale de France Info TV. C'est lui qui a repris avec succès la présentation de Questions pour un champion il y a 4 ans. Samuel Etienne est notre invité et on est ravis de l'accueillir dans quelques minutes sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Vondel.
Et dans Culture Média, on est très heureux d'accueillir Samuel Etienne.
Vous êtes très heureuse que c'est votre collègue.
Oui,
bonjour Samuel Etienne.
Bonjour, et moi je suis super heureux d'être invité dans cette maison.
Je dois dire ce qui se passe, il a dit bonjour à tout le monde ici, parce qu'on vous a connu à la radio ici même sur Europe. Samuel, vous vous consacrez désormais à la télévision, vous informez le matin dans la matinale de France Info, la télé, le canal 27, et l'après-midi, vous divertissez donc Questions pour un champion. Et si vous pouvez être avec nous ce matin, c'est que vous êtes en congé paternité. C'est ça, vous n'avez pas la matinale à faire.
Et oui.
Alors, ce n'est pas un scoop. Hein. Vous avez annoncé la naissance de votre deuxième fils sur Twitter avec une photo et un texte. À deux, c'était magique. À trois, un bonheur immense. À quatre, mon cœur n'en finit plus de déborder. Bienvenue, petit bonhomme. On va tout faire pour t'aider à illuminer ta vie. Il nous écoute, le petit bonhomme, ou pas?
Peut-être. C'est drôle parce que quand j'ai tweeté ça, il y a des gens du coup, qui ont pensé que j'avais quatre enfants.
Ouais.
Et en fait, quatre, c'était en incluant papa et maman.
Et la maman, voilà. Et Mathieu Béliard pensait que vous en aviez trois.
Oui.
Mais ceci explique cela, c'est que Mathieu Béliard a trois enfants. Donc il pensait que c'était trois. Chacun
envoie
midi à sa porte.
Projection. Mais c'est pas terminé. On compte bien en avoir d'autres encore.
Non, mais c'était pas le sens de notre interview. Hein. Vous faites ce que vous voulez de votre vie privée. Quand votre premier enfant est né, vous l'aviez appris en direct. Vous aviez été obligé de quitter l'antenne. C'était le 30 août 2016. Vous étiez à Europe. Il s'était cassé. Il avait laissé l'émission comme ça en plan. Cette fois-ci, vous n'avez pas dû quitter le direct. Vous étiez prévenu.
Oui, mais j'ai quand même quitté Questions pour un champion. Alors, j'étais pas sur France Info ce matin. J'étais en enregistrement de Questions pour un champion. Et en fait, j'ai laissé en plan, avec le raccord, bien sûr, on en avait parlé, l'équipe, les candidats. Voilà. Et je suis parti. Donc, c'était le matin.
Ouais.
Très tôt le matin. Je suis revenu quand même à 13h pour continuer la journée d'enregistrement.
D'accord.
Donc on devait faire 6 émissions et ce jour-là, on n'en a fait que 4. Mais les candidats qui ont dû revenir après ont bien compris.
Bon bah quand même, disons, le candidat qui ne comprend pas ça, dis donc, faut qu'il change de vie. Hein. Ça fait 4 ans que vous êtes à la tête de Questions pour un champion depuis février 2016. Générique. Donc, vous avez succédé à Julien Lepers qui a présenté l'émission pendant 28 ans. On vous avait fixé quoi comme objectif?
L'objectif, c'était de sauver l'émission. C'était une émission qui...
Ah, c'était à ce point-là?
Bah, oui, c'était une émission qui, depuis une quinzaine d'années, en raison de la multiplication des chaînes, multiplication de la concurrence, perdait régulièrement de l'audience. En même temps, on était parti de très haut, hein, grâce à Julien, qui avait mené ça très très haut. Et il fallait une réaction. Et on m'a dit, bah, écoute Samuel, c'est simple, ta mission, c'est de stabiliser les audiences, il ne fallait plus qu'elles baissent. Quoi.
D'inverser la courbe du chômage, comme dirait un prédécesseur. Vous connaissez vos audiences, ça marche comment?
Ça marche très bien. En fait,
alors
la stabilisation, au bout d'un an, l'objectif a été atteint. Donc, on a stabilisé les audiences. Et là, on est allé au-delà, c'est-à-dire qu'on les a fait remonter. Sur l'année 2019, on est à presque 12, on est à 11,9% d'audience. En moyenne, là, depuis le début de l'année, on est à 12,5%, je crois. L'été dernier, c'est la dernière référence que j'ai, c'était le meilleur été depuis 7 ans. Donc, en fait, on a surrempli l'objectif. Et aujourd'hui, l'émission se porte super bien.
1 420 000 téléspectateurs en moyenne cette saison. Qu'est-ce que vous avez changé dans l'émission depuis votre arrivée, à part que, pardon de dire les choses, que vous êtes plus jeune que Julien Lepers et que déjà, de fait, ça rajeunit.
Oui.
Est-ce que vous avez changé des choses dans la mécanique?
Dans la mécanique, des petites choses, mais c'est-à-dire qu'on ne change pas comme ça une institution.
Donc bah, évidemment.
C'est des petites choses. C'était surtout au niveau de l'ambiance et du style. Et sans le vouloir, Julien avait son style à lui. Il était hors de question de faire du Julien. Et donc, je suis venu et puis je me suis laissé un peu pénétrer de l'ambiance. À chaque fois, il faut trouver le ton, le style.
Je veux dire les choses. Vous avez rajouté des blagues, vous avez enlevé des blagues.
Ça s'est pas fait comme ça, mais ma personnalité s'est exprimée à l'antenne et moi j'ai un humour un peu à 2 centimes d'euros, qui est le mien. Voilà, j'adore rebondir, faire des jeux de mots, mais pourri, c'est mon style.
Ouais.
Et ça fait beaucoup rire les candidats, ça les déstresse aussi un peu. Manifestement, les téléspectateurs aiment bien, donc oui, l'émission s'est détendue. Je vais vous dire, Philippe, en fait, l'objectif c'est ça. C'est qu'avant, et ça l'est toujours, question, c'était le jeu de culture générale de référence. C'est le jeu le plus difficile en France. Voilà, c'est ça le spectacle qui est impressionnant de la culture, de la connaissance de nos candidats. Et là, je me suis dit, et ceux qui nous regardent et qui n'ont pas ce niveau-là, est-ce qu'ils peuvent quand même passer un bon moment? Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ça qu'on a fait. L'objectif est rempli. C'est-à-dire qu'il y a le spectacle de la connaissance de la culture est toujours là. Mais en plus, même quand on n'est pas un champion en culture, on passe un bon moment parce que ça sourit.
Grâce
ça
à vos blagues à deux balles.
Oui, et puis au ton que je mets. Et puis j'ai une grosse empathie pour les gens. Voilà tout ça.
Julien Lepers est resté 28 ans. Vous comptez rester combien de temps? 28 ans, j'ai regardé, ça nous mènerait en 2044.
C'est trop loin parce que moi, je compte bien prendre ma retraite en fait. Si on nous en laisse une.
C'est pas vrai. Mais vous avez quel âge?
J'approche des 50. Je vais avoir 49 ans cette année, Philippe.
Vous pensez déjà réellement à la retraite? Mais ou moi, c'est une boutade?
Mais Philippe, depuis mon premier jour de travail, moi, à 24 ans, je pense à la retraite parce que j'ai toujours pensé que c'était un âge béni. Parce que moi, j'adore lire. Bon, moi, j'ai plus le temps de lire. J'adore faire du sport. J'en fais, mais j'aime en faire plus. Je sais pas, je me vois, quand j'étais ado, je passais des heures et des heures à pêcher, sans jamais ramener un poisson, mais j'avais une passion pour la pêche. Et puis, j'ai ma famille, j'ai mes amis, et j'ai une vie qui est très prenante, qui est géniale, mais je travaille énormément, j'ai cette famille qui s'agrandit, mais le temps passe à une vitesse, et à un moment, j'aspire à ce moment où justement le temps va ralentir un peu, je vais relire, peut-être écrire, qui sait, je ne sais pas. Mais depuis le premier jour de travail, alors que j'adore mon boulot, Philippe, je me dis, qu'est-ce que tu feras plus tard? J'y pense très souvent.
Quelle confidence, Samuel Etienne. Pas 28 ans à l'antenne. La semaine prochaine, il y aura une spéciale junior avec des lycéens. Mmh. Qu'est-ce que ça change? Vous changez le niveau des questions? Vous changez le niveau des blagues?
Des blagues, non. Quoique, je fais attention parce que les jeunes, ils sont très cash. C'est-à-dire que si la blague, elle est vraiment naze, ils font pas mine de rire. Quoi. Ils se moquent de vous. Quoi. Mais c'est bien.
Pas moi qui ferais ça. Hein.
Et ça crée une autre ambiance. Et on adapte un petit peu le niveau des questions, à peine, parce qu'ils sont étonnants. Ils sont sélectionnés dans leur propres établissements scolaires, donc on est avec des très très bons et le spectacle de la culture. On dit souvent les jeunes ils lisent plus, ceux qui viennent jouer à question ils sont très impressionnants.
Vous savez quoi, juste avant vous il y avait Aurore Berger, la députée qui remet un rapport sur la culture au Premier ministre et elle se désole que les jeunes ils lisent plus. Restez avec nous Samuel Etienne.
Oui Philippe, top, je viens d'avoir un deuxième enfant mais comme je suis un grand sportif et que le marathon ça me connaît même pas peur. Je dormirai dans une autre vie, je suis passionnée de tatouage même si ça ne se voit pas et je présente une émission où 4 candidats doivent répondre rapidement à mes questions. Je suis
Samuel Etienne.
Samuel Etienne qui reste avec nous sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Et on parle ce matin dans Culture Média de la riche actualité de notre invité Samuel Etienne.
Une fois n'est pas coutume, on peut faire la promotion d'une émission dans laquelle est notre invité, puisque normalement il est en même temps que nous, mais là, comme il n'est pas là, je peux le dire. Je le dis très très vite. Vous présentez la matinée d'info, la télé Canal 27 entre 10h30 et 9h30. Depuis 2017, générique. Ça, c'est le générique de votre session d'info sur France Info, la télé, le canal 27. C'est quoi la différence par rapport aux autres chaînes d'info? Et me dites pas que vous êtes debout.
Ah non, surtout pas ça. C'est cette mode qu'on a tous eu à se mettre debout, comme se mettre debout, ça changeait la qualité du message. Ça, c'est ridicule.
Vous savez quoi? Tout le monde l'a fait. Hein.
Oui,
c'est
oui,
M6 qui a instauré ça, qui a fait ça, et c'est devenu une instauration,
en fait,
puisque tout le monde s'y est mis.
C'est M6 qui, précisément, parce que j'ai suivi cette histoire, c'est M6 qui a dit qu'ils étaient les premiers, alors que d'autres avaient commencé avant.
Ah bon, mais qui?
Moi, je l'avais fait, par exemple, en info avant, au 12-13, on était debout avant. Mais comme,
personne ne vous regardait.
1,5 million de téléspectateurs par jour. À mon avis, c'est plus qu'M6.
Bon.
Mais ça, c'est les détails. Non, la différence, c'est le ton, c'est le ton de service public. Je pense que quand on écoute l'info, quand on la regarde dans le service public, il y a quelque chose au niveau du traitement de l'info. Et on retrouve cette qualité-là sur France Info. Tout simplement. Moi, j'adore Europe 1, c'est ma radio de cœur.
Ouais.
Mais j'écoute France Info, la radio, depuis ses débuts aussi. comme pas mal de journalistes, je pense. Et je suis heureux de retrouver un petit peu cette ligne éditoriale sur France Info, la TV.
En revanche, les audiences, c'est moins la fête. Ce que je disais, ça marchait bien pour Question pour un champion. Vous avez remonté la pente de fort belle manière. Le canal 27, ça prend du temps à démarrer.
Oui et non. C'est-à-dire que c'est la petite dernière. Hein, c'est celle qui est partie en dernier.
Ouais.
Les trois autres avaient déjà quelques longueurs d'avance. Donc je dis oui, bien sûr, mais non, parce que quand on voit la progression de la chaîne depuis quoi, 4 ans maintenant hein, qu'elle existe, si on compare, moi je l'ai fait, hein, à ces trois autres chaînes où elles en étaient 4 ans après, bah en fait on va beaucoup plus vite, beaucoup plus fort. Moi je pense, c'est aussi pour ça que j'y suis, je crois vraiment très fort en ce projet éditorial. Le succès de la radio, la TV va l'avoir. Et à très court terme, à moyen terme, on va être moyennement ambitieux, à moyen terme, France Info, c'est à minima la deuxième chaîne de télé d'info de France derrière BFM.
Qu'est-ce qui vous fait dire ça ?
La qualité du projet éditorial, voilà. La qualité des équipes.
Et il y a peut-être une bonne nouvelle qui va vous échoir. Avec la fermeture de France 4, France O, vous pouvez récupérer le canal 14.
Bah, ça joue le canal, hein, bien sûr. Si on va chercher le canal 27 ou 14, ce n'est pas la même chose. BFM a sûrement une prime au fait d'être très bien placé, comme TF1.
Et CNews.
Là,
CNews qui a la 16
bien sûr.
BFM la 15.
Ce qui me rend très optimiste, c'est que si on se rapproche en termes de canal de ces chaînes-là, vous allez voir comment mécaniquement, du jour au lendemain, on va exploser et que tout le monde va dire France Info, c'est vraiment super.
Vous êtes journaliste aussi, évidemment, ce sujet des médias vous intéresse. Vous avez des infos au sujet du canal ?
Non. Alors, on suit ça avec beaucoup. Nous, on espère très, très fort, évidemment, hériter de ce canal qui nous rapprocherait de la concurrence, parce qu'aujourd'hui, la concurrence, elle est biaisée, elle est faussée. Donc, un groupe de chaînes d'infos rapprochées, par exemple, on pourrait lutter un peu à armes égales, mais on n'a pas d'infos. On les attend avec impatience.
Dans quelle mesure vous suivez ce que font justement les autres chaînes d'infos ?
J'ai assez peu le temps de les regarder en raison de...
Bah non.
Bah, je vous l'ai dit, moi j'écoute Europe, j'écoute France Info la radio. J'ai pas le temps.
Non, mais les journées ont 18 heures.
Ouais, non. Bah oui, mais moi j'ai la famille, j'ai mes passions personnelles, le sport, toujours un tatouage en route.
Ouais.
Non, j'ai pas le temps. Si, quand je vais à la salle de sport, souvent il y a les chaînes d'infos sans le son.
Et alors vous comparez ?
Je regarde, voilà. Mais. Moi, je pense aujourd'hui, je vous le dis pas parce que j'y suis, c'est pas du corporatisme, je pense que la meilleure chaîne d'info par le projet éditorial, c'est France Info, et je pense que ça va se voir dans les audiences dans les années à venir.
Ce qui est formidable, c'est que tous ceux qui viennent ici, mais qui sont d'une autre chaîne, que ce soit CNews, LCI ou BFM, disent la même chose.
Vous imaginez l'invité qui vous dit, ouais, pas terrible ce qu'on fait, hein.
C'est déjà arrivé. Parfois, ils le disent en off. Parfois, ils le disent en off, et comme je suis loyal, je ne trahis pas le off. Le marathon, vous arrêtez ? Vous continuez.
J'ai un peu levé le pied, c'est-à-dire les trucs.
C'est le cas de le dire.
Les trucs très très durs, très très forts. Je pense à l'Ironman en triathlon par exemple. C'est compliqué parce qu'il faut un volume d'entraînement par semaine tel que j'y arrive plus. Par contre, un ou deux marathons par an. Je suis parrain d'une association de pompiers qui court avec des enfants handicapés. Bon, bah ça, c'est très important pour moi. Donc, je continue à courir avec eux, mais pas au-delà du marathon.
Et moi, j'ai une idée pour vous, ce serait d'aller faire Fort Boyard, mais sans vous blesser.
Non, en fait, c'est fini Fort Boyard.
Ah bon.
C'est fini parce que j'ai fait 5 fois. Mais
il a eu 3 côtes cassées, décollement de la clève,
un petit pneumothorax.
C'est juste
dingue. Je suis le candidat idéal, c'est parce que je donne tout et je suis Pierre Richard, je suis le mec le plus maladroit du monde. Donc, il y a un truc, il y a un obstacle, c'est pour moi. C'est pour ça qu'ils m'invitent, c'est parce que t'es un super client, ils me le disent.
C'est vrai.
Mais le problème, c'est qu'édition après édition, je me blesse un peu plus. Donc je leur ai dit merci pour tout, on s'est bien marré, mais je crois que pour moi c'est terminé.
Une question que je n'ai pas posée, je l'ai dit, vous êtes avec nous grâce à votre congé paternité,
oui.
Donc preuve que ça fonctionne. C'est combien de temps congé paternité désormais, selon la loi ?
Moi j'avais le droit à 11 jours là.
Donc vous avez pris les 11 jours.
Oui, oui.
Comment va le bébé ?
Le bébé va super bien. Ça m'a un peu alarmé parce que toutes les 1h30, il pleure et... un bébé ça pleure, mais en fait je trouvais qu'il pleurait beaucoup, mais non, en fait c'est parce qu'il a tout le temps faim et c'est super, je pense que c'est un signe de très bonne santé.
Oh, le jeune papa qui découvre.
Mais
quelle info de
mais
dingue.
Non, parce que attention, un enfant souvent au niveau de la digestion c'est compliqué, vous savez, il y a les reflux
et
tout ça.
Moi j'en ai eu deux
et lui il a faim.
J'ai une question énorme et si vous me donnez la réponse, c'est un scoop énorme.
Ouais.
C'est paru nulle part.
Non.
Comment s'appelle-t-il ?
Je l'ai gardé pour vous, Philippe, ça.
Parce c'est
que,
pas vrai.
Ouais, parce que je vous aime bien et j'adore cette station. Et donc, j'ai donné le prénom nulle part. Et quand j'ai su il y a quelques jours que vous m'invitiez, je vais dire, c'est mon petit cadeau de naissance à Philippe Vandel. C'est un prénom dont je rêve depuis toujours, après la lecture d'un magnifique livre d'Albert Cohen. Vous voyez
ça commence par un S, ça finit par un L.
C'est Solal.
Voilà, Solal. Voilà. Qu'est-ce que je viens de dire ?
Voilà. Et j'ai eu un choc, comme beaucoup de ceux qui nous écoutent peut-être, avec Belle du Seigneur.
Évidemment.
Un magnifique ouvrage de 800 pages, pour ceux que ça intéresse. Et le héros, ce diplomate très beau, très élégant. L'amoureux d'Ariane, c'est Solal. Et ouais. Notre petit bonhomme s'appelle Solal.
Magnifique livre, magnifique prénom. Merci beaucoup, Samuel Kahn, d'avoir été avec nous. On vous retrouve à la fin de votre congé pat. C'est comme le congé mat, mais c'est pour les paternels. Oui. Entre 6h30 et 9h30 sur France Info, la télé. Merci d'avoir été avec nous en direct.
Un grand
on dirait
merci.
Que la radio, ça vous manque. Hein.
Ouais. Ouais. Bah, oui, c'est magique la radio. Et il faudrait que les journées aient 36 heures. Je rêve de refaire de la radio.
On finira sur ce ouais et bonne route et longue vie à Solal.
Et place maintenant au Rat d'auteur, votre rendez-vous d'humour dans Culture Média avec le duo Stéphane De Groot et Gilles Gaston Dreyfus.
Gilles Gaston Dreyfus, Gaston Dreyfus.
Toi, c'est Stéphane De Groot.
Toi, tu dis De Groot.
Une vraie question. En France, on dit De Groot.
Oui.
Donc.
Qu'est-ce que vous disiez du coup?
Bah, du coup, je.
Rien.
Bonjour Gilles.
Bonjour Stéphane.
Comment allez-vous?
Bien et vous?
Nous sommes lundi.
Lundi 17.
Joie du 17.
Joie de vous retrouver.
C'est la mort aujourd'hui d'un grand homme.
Ah, oh, m'en parlez pas. Passons à autre chose.
Allons-y. Molière.
Oui.
Aujourd'hui.
Oui.
Est mort. Il avait 51 ans.
Ils sont tous morts à 50. Hein.
Michel-Ange, il est mort. Il avait 88 ans.
Ça dégomme à toute pompe.
Geronimo, par exemple, il est mort à 79 ans.
Qui ça?
Geronimo.
Geronimo, il était au grand air.
Molière.
Quoi?
Vous avez un truc à dire sur Molière.
Vous avez joué du Molière?
J'ai jamais joué Molière. Si je devais jouer du Molière, je jouerais l'avare. Et vous?
J'ai eu la chance et le talent.
Vous avez la chance d'avoir du talent aussi.
J'ai joué avec Michel Bouquet qui jouait l'avare.
Il n'y a pas eu d'adaptation contemporaine de l'avare?
L'adaptation de l'avare qu'avait fait Gérard Rory. La folie des grandeurs.
C'est une adaptation de l'avare.
C'est pas vrai en fait. Moi j'ai toujours pris ça comme ça, mais effectivement ça raconte autre chose. Je sais pas pourquoi je dis ça.
Je sais pas pourquoi vous dites ça.
Parce que comme il joue un avare.
Il y a un film avec Danny Boone où aussi il joue un avare.
Non mais c'est vrai.
Il s'appelait comment d'ailleurs ce film?
De Danny Boone?
Oui.
Ça j'en sais rien du tout. Là.
Soyez gentil un peu avec Danny. Balayez ça vraiment avec très peu de respect.
Mais c'est pas une culture cinématographique si large.
Il faut pas être très large. C'est du cinéma populaire. Oh, justement, vous devriez le connaître.
Je connais des films de Danny Boone, hein, mais celui-là non.
Citez-moi un.
Bah le.
Ou alors un autre.
Et les films de Cadmerade.
Gilles, vous rendez compte? Il faut prendre des trucs. Hein, il faut prendre des aspirines. Il faut liquéfier le sang.
Les premiers films qu'il est. Les...
Mais dites-moi le nom du film. Un film de Danny Boone.
Gilles,
vous rendez compte un peu ou pas?
Mais enfin, ça va.
Le titre d'un film de Danny Boone.
Bah je sais pas.
Ça, je vois bien que vous savez pas. Je vous disais tout à l'heure que Geronimo était mort. Il avait 79 ans. Vous avez été déjà visité des réserves indiennes?
J'aime pas le mot visiter, mais il m'est arrivé de traverser des réserves indiennes.
Ah oui, c'est plus noble de dire ça.
M'arrêter.
De parler à un indien.
Ou de rentrer dans une boutique.
Pourquoi vous êtes rentré dans un magasin?
Acheter un sandwich ou je sais pas.
C'est des vieux sandwichs de l'époque.
Il y avait aussi des vieilles dents Yankee.
C'était quelle réserve? Vous avez un souvenir particulier?
Des paysages. Vous avez vu ça, ces paysages?
Moi j'étais sur le lac Powell.
Oui.
Ok, ça vous dit rien. Quand vous étiez petit, vous regardiez des films de cowboys indiens?
Bien sûr, de John Wayne, de Dean Martin. Moi je suis très féru de western.
On devrait s'enfiler. Enfin, non, pas s'enfiler, pardon. On devrait s'envoyer un western. Et vous avez vu Django?
Ouais.
Vous avez pas aimé?
Si, si.
On dit pas ouais alors?
Oui, non.
Vous avez aimé ou vous avez pas aimé?
Moyen.
Cette semaine est longue et elle me fatigue.
Oui, et pourtant on parle de gens.
Au revoir Gilles.
Au revoir Stéphane. Demain on attaque comme des fous.
Les Rats d'auteur avec Stéphane De Groot et Gilles Gaston Dreyfus. Vous les retrouvez demain, 9h55 et en podcast sur europe1.fr.
Europe 1, Culture Média.
Culture Média qui continue avec Julie et Camille Berthollet revisite les 4 saisons de Vivaldi. Hélène Manarino va nous dresser leur portrait inattendu. Et puis dans Les Indispensables, une série israélienne à succès s'appelle Our Boys et un documentaire politique, La Cravate, disons ce titre.